France Culture, sans oser le demander, Géraldine Mosna-Savoie.
Si vous étiez comme moi enfant dans les années 80-90 et que fatalement vous avez regardé le Club Dorothée, vous connaissez forcément Juliette Je t'aime ou Ranma 1/2. Ou du moins vous souvenez-vous de leur générique. Mais savez-vous qui en est l'auteur ? Oui, connaissez-vous Rumiko Takahashi, l'une des dessinatrices les plus lues au monde, véritable légende du manga et accessoirement la femme la plus riche du Japon.
Je n'arrive pas à imaginer autre chose dans ma vie que le manga. Si je n'avais pas réussi en tant que mangaka, je serais quelqu'un qui serait mort d'envie de devenir mangaka. Globalement, lorsqu'on a une série comme moi hebdomadaire, dans mon cas, ça correspond à 18 pages à réaliser par semaine. Je travaille en moyenne 5 jours à temps plein. Les 3 premiers jours sont consacrés à mon storyboard. C'est une étape sur laquelle je travaille seul, souvent la nuit, là-dessus. Les 2 jours suivants, je fais venir mes assistants, ils m'aident à faire les premiers plans. Moi, je m'occupe essentiellement des personnages. Et lorsque les assistants sont à l'atelier, là, on travaille sur un rythme très élevé.
Fausto Fazulo.
Bonjour.
Vous êtes fondateur de la revue Atome et co-directeur artistique du festival d'Angoulême. Vous signez 2 articles dans le Télérama hors série qui est sorti hier, Planète Manga, avec lequel nous sommes en partenariat. Katsuhiro Otomo, l'incendiaire, c'est le premier article. Et le deuxième article, c'est Rumiko Takahashi, l'espiègle. Rumiko Takahashi, dont nous allons parler donc aujourd'hui, durant l'heure qui vient. Pourquoi espiègle pour qualifier Takahashi ?
Je pense qu'il y a quelque chose d'assez circassien en fait dans son œuvre, qui ressemble à un gigantesque barnum où des personnages assez fous se croisent et s'entrecroisent. Et tout ça participe d'une forme d'espièglerie qu'elle va dérouler, explorer tout le long de son œuvre. Je dirais pas que c'est la colonne vertébrale de son travail, mais c'est vrai que la qualité, sa qualité d'écriture, sa manière qu'elle a de croquer des personnages hauts en couleur, de leur donner une sorte de superficialité et en même temps de profondeur, je pense que c'est quelque chose d'assez unique dans le manga.
Alors, qui est Rumiko Takahashi ? Quand est-ce qu'elle a commencé à dessiner ? Et quelles sont ses plus grandes œuvres ? On va en parler notamment de 3, mais est-ce que vous pouvez quand même un peu nous présenter le personnage déjà de Takahashi ?
Elle a commencé de manière assez traditionnelle en fait. C'est vrai que les mangakas, en règle générale, ont des trajectoires qui se ressemblent, c'est-à-dire qu'elle a toujours lu du manga, mais pas que. Parce que Rumiko Takahashi, c'est une bibliophile, je dirais même que c'est une bibliophage. C'est vraiment une lectrice compulsive, c'est une collectionneuse de livres. Et très tôt, en fait, dans son parcours de lectrice, elle a affirmé cette bibliophagie. Elle a commencé à dessiner très jeune, elle a commencé à envoyer des histoires courtes à des éditeurs au Japon quand elle était encore au lycée. Elle a très tôt eu envie justement d'embrasser la profession de mangaka. Et puis, elle a commencé de façon très normale, très normative, je dirais, puisque elle a été repérée par un éditeur qui est son éditeur historique, Shogakukan.
Donc à qui elle avait envoyé en fait des dessins comme ça.
Exactement.
En se disant voilà, peut-être qu'ils vont être publiés.
Tout à fait, il y a un système qui est en place au Japon depuis de très nombreuses années, système de concours. On peut participer justement à des concours et certains prix vous permettent d'être publiés ensuite dans une revue de prépublication. publication, puisqu'il faut savoir qu'avant de sortir en format relié, le format tankobon, c'est le terme technique en japonais pour définir les mangas que nous avons ici en format relié et aussi là-bas, avant de sortir sous cet aspect-là, les histoires sont prépubliées dans des magazines qui ressemblent à des espèces de gros bottins imprimés sur du papier bon marché, dans lesquels on trouve plein d'auteurs différents et plein d'histoires différentes. Et avant, en fait, de sortir dans le format définitif tel qu'on connaît nous, les histoires sont publiées dans ces recueils-là. Donc Rumiko Takahashi, elle a soumis des histoires courtes à un éditeur qui l'a repéré et qui l'a fait travailler et qui l'a propulsé ensuite sur le devant de la scène. Et comme toujours, la sanction vient des lecteurs. Elle a connu un succès quasiment immédiat et elle est devenue l'autrice qu'elle est devenue, c'est-à-dire une superstar au Japon d'abord, et puis ensuite à l'international.
Elle a explosé à peu près parce qu'elle est née en 1957.
1957, oui.
Donc, elle a explosé à peu près à quel moment, en fait?
Très tôt, en fait.
Années 70-80?
Tout à fait. En fait, Rumiko Takahashi, effectivement, elle est née à Niigata en 1957. Rassurez-vous, je ne vais pas vous assommer de détails biographiques pendant une heure.
Oui, qui étaient ses parents.
Voilà. Comment elle travaillait à l'école, etc. Mais elle, il y a quelque chose qui est très intéressant à préciser. Effectivement, c'est que en fait, elle a rejoint en 1977 une école privée qui s'appelle la Gekiga Sonjuku, qui est une école en fait dans laquelle on apprend à des mangakas en herbe, des auteurs en herbe, à écrire et dessiner. Cette école, elle a été fondée et dirigée par un grand scénariste du manga, un grand théoricien aussi, qui s'appelle Kazuo Koike, qui est un scénariste de manga et un scénariste de cinéma. Et elle a suivi cet enseignement, un enseignement qui est basé, je vais pas dire essentiellement, mais principalement sur le développement des personnages. Donc très tôt, en fait, on lui a appris à écrire, concevoir, dessiner des personnages très très forts autour desquels va se construire une histoire et une histoire qui va être soutenue justement par le charisme d'un personnage. Donc très tôt, elle a retenu cette méthode-là, elle va la mettre en œuvre et sa première série, publiée en 1978, Urusei Yatsura, ou Lamu pour le public français.
Dont on a entendu le générique en japonais à l'instant.
Très pétillant.
Oui, un peu circassien justement, comme vous le disiez.
Complètement. Dès ce titre-là, dès cette première publication qui devait théoriquement être de courte durée, elle va recevoir un plébiscite assez dément de la part des lecteurs. Et de fait, elle va devoir continuer plus longtemps que prévu et c'est ainsi que son succès est né.
Mais alors, quand vous dites qu'elle a été plébiscitée par les lecteurs, parce que ça, c'est quelque chose qui est typique au Japon et dans le genre du manga, ça veut dire que les lecteurs ont vraiment participent, en fait, font ou défont le succès d'une œuvre.
Les lecteurs sont sondés, les lecteurs écrivent régulièrement aux magazines de prépublication. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Le lien avec les lecteurs ne s'établit plus de la même façon.
C'est quoi? C'est comme nous sur les réseaux sociaux?
Voilà, aujourd'hui, c'est même quelque chose qu'elle dit. Elle, c'est-à-dire que quand elle a commencé, en fait, elle avait l'habitude de recevoir des lettres de lecteurs et de lectrices qui l'encourageaient ou qui lui faisaient des remarques par rapport à l'histoire ou à certains personnages. Aujourd'hui, en fait, ces correspondances manuscrites ont été remplacées par une sorte de lien un peu étrange sur les réseaux sociaux qui est plus de l'ordre de la réaction, en réalité, que du dialogue, comme ça pouvait être le cas avant quand elle recevait des lettres de ses fans.
Donc les fans sont allés aussi dans le sens de cette insistance sur les personnages et non pas sur l'action, c'est ça?
C'est la clé. Les personnages dans le manga, c'est clairement la clé. Un bon manga, ce sont des bons personnages.
Ce qui peut paraître quand même un petit peu étonnant, parce que quand on pense à d'autres mangas, bon, moi je suis pas spécialiste de manga, mais quand on peut penser à Dragon Ball, par exemple, on a l'impression que c'est toujours des histoires pleines de rebondissements, avec beaucoup d'action, avec même un côté presque gag, on voit des pieds qui partent, on voit des paves, des poumes.
Bien sûr, une dimension slapstick
complètement.
Qu'on retrouve d'ailleurs totalement chez Takahashi.
Et pourtant, c'est quand même les personnages qui priment.
Oui, parce qu'il y a déjà quelque chose qui tourne autour du corps, autour de la gravité des corps, la gravité dans tous les sens du terme, la gravité grave et puis la gravité terrestre, qui est hyper importante dans le manga et chez Rumiko Takahashi. Et c'est vrai que, aussi bonne peut-être votre histoire, si les personnages ne suivent pas, en fait, tout s'écroule. Et il vaut mieux partir de très bons personnages pour ensuite construire une histoire plutôt que d'avoir une histoire et de mauvais personnages. Alors après, certains diront que l'un ne peut pas aller sans l'autre. Mais c'est une question très complexe, je pense, à laquelle a beaucoup réfléchi Rumiko Takahashi.
Et alors, elle a répondu du coup en accent sur les personnages, mais de quelle manière ? C'est quoi la caractéristique de Takahashi pour mettre en avant ces personnages ou les relations interpersonnelles ou les corps des personnages ?
Je ne sais pas s'il y a là vraiment une méthode. Je pense que la chose dont elle se soucie le plus, c'est le plaisir qu'elle va procurer à ses lecteurs. Et ce plaisir-là passe clairement par les échanges, les quiproquos, les scènes d'action qu'il va y avoir entre ces personnages. Je n'ai pas envie de dire peu importe le contexte. Et
Peu importe l'histoire, c'est voilà. Pas non plus.
Ouais. Pas non plus, puisqu'il y a il faut toujours un socle, et il faut toujours un contexte, une base. Néanmoins, quand on prend sa première série, Urusei Yatsura, on se rend compte que le schéma narratif est sensiblement le même à chaque épisode, mais les personnages sont tellement attachants, sont tellement surprenants d'épisode en épisode que finalement, on a envie de dire, peu importe ce qui leur arrive, on est tellement content de les suivre, on est tellement addict en fait à leur péripétie qu'on reste scotché et qu'on a envie de tourner les pages. Il y a quelque chose qui est très caractéristique à mon sens du manga, c'est l'attachement passionnel, voire obsessionnel, qu'ont les lecteurs pour les personnages. Et par ailleurs, quand on s'attarde un petit peu sur les réseaux sociaux, qu'on lit des réactions de lecteurs vis-à-vis de telle ou telle série, on se rend bien compte d'une chose, c'est que la plupart du temps, ils parlent des personnages et ils en parlent de manière tellement proche que ça en devient assez... Ça peut être même malaisant parfois. On se dit, mais c'est incroyable en fait à quel point ils pensent que ce personnage-là existe en réalité.
Ces personnages leur font un effet réel.
Exactement. Donc en fait, il y a un jeu comme ça sur la perception des personnages qui, à mon avis, est propre et unique au manga.
Ce qui explique ce paradoxe, Fausto Fazulo, de une mangaka dont le nom est très peu connu, en tout cas en France. Alors peut-être suis-je complètement déformée par mon prisme français, mais par contre dont les personnages peuvent être effectivement connus.
Oui, oui. Alors après, son nom, effectivement, est peut-être pas très connu du grand public. Après, c'est toujours comment définit-on le grand public.
Oui, voilà, c'est ça.
Elle a quand même, après son grand prix à Angoulême, bénéficié d'une exposition.
Donc c'était en 2019.
Voilà, médiatique un peu plus importante. Mais il est vrai que la réputation de ses histoires et de ses personnages l'a précédée, elle. Et qu'en règle générale, on a plutôt tendance à retenir, en tout cas quand on n'est pas expert, une création, un personnage, plutôt que son créateur.
On va écouter encore une fois la voix de Takahashi et puis un extrait de l'AMU Urusei Yatsura.
Au départ, je voulais faire d'Urusei Yatsura une série de science-fiction, une sorte de science-fiction comique. Mais en lisant le courrier des lecteurs, j'ai compris qu'ils étaient plus intéressés par les relations entre les personnages. Et j'ai alors développé cet aspect. Comme je commençais à peine ma carrière, la série aurait pu s'arrêter à 5 chapitres. Étonnamment, le manga a eu plus de succès que prévu. Pour autant, on ne m'a jamais dit « arrête l'école pour dessiner ». Leur discours était plutôt « dessine quand tu peux ».
Oh, c'était toi l'AMU !
Coucou chérie ! Tu n'as pas envie d'aller faire un petit tour dehors ? Les cerisiers sont en fleurs.
Tu ne vois pas qu'on est en plein cours ?
Mais tout le monde dort. Mais qu'est-ce que vous faites ?
Madame, Philutin, nous sommes faits, nous sommes repérés.
Dormez. Mais pourquoi ils veulent pas dormir ?
Je n'ai jamais vu de pareilles créatures, et toi, Rune ?
Non.
Oh, nous sommes observés par les humains.
Oh, je n'y arriverai jamais, j'y arriverai jamais, jamais.
À quoi ?
Eh bien, chaque année au printemps, je demande à l'élève le plus mauvais de ma classe de passer une épreuve de rattrapage qui consiste à faire dormir les élèves de cette école.
Je comprends pourquoi on a sommeil à cette saison.
Voici l'élève le plus mauvais de ma classe.
Voici mon professeur, c'est un incapable.
Est-ce que tu veux ma main sur la figure ?
Oh, bah, prouvez-moi le contraire.
Qu'est-ce que tu as mis dans leur coupe ? Oh non, bah, lutin, je me suis trompée. J'ai fait une poudre aphrodisiaque. Bon, eh ben, je crois que je vais vous laisser.
À l'année prochaine !
L'AMU, l'anime issu du manga Urusei Yatsura de Rumiko Takahashi, dont nous parlons avec vous, Fausto Fazzulo. Alors, Urusei Yatsura, c'est publié de 1978 à 1987. 34 tomes diffusés en France à partir de 1988. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de l'AMU? Donc c'est là le nom français en traduction.
Tout à fait.
De Urusei Yatsura.
Alors, l'AMU, effectivement, c'est un personnage d'extraterrestre en bikini léopard. Alors, dit comme ça, ça peut donner très envie ou pas du tout envie. En l'occurrence, je pense que le personnage a été un choc érotique pour de nombreux jeunes téléspectateurs de l'époque.
Moi, j'ai pas de souvenir.
Et donc, ça raconte effectivement son arrivée sur Terre et puis le chaos qu'elle va provoquer. Et puis, elle va effectivement s'amouracher d'un jeune garçon. Et toute l'histoire est basée sur une série de quiproquos, de défis, de croisements, de gags. Et voilà, le schéma va se répéter très longtemps sur une trentaine de volumes. Et vers la fin, effectivement, on a un peu fait le tour, on va dire, de toute la mécanique des gags qu'elle a pu nous proposer. Mais c'est aussi cette sérialisation au long cours qui a permis de s'attacher profondément à ces personnages. Et Urusei Yatsura, c'est une série qui est encore aujourd'hui très populaire au Japon, qui a bénéficié d'une nouvelle adaptation animée. Donc c'est vraiment une création qui est profondément ancrée dans la culture populaire nippone, un peu moins en France, parce que c'est une série qui est quand même, je trouve, extrêmement typée, et que l'humour, c'est probablement la chose qui est la plus difficilement exportable. Donc il y a plein de subtilités dans le manga aussi, des jeux de mots qui sont très très compliqués à traduire en français et qui du coup ont été un petit peu écartés, on va dire. Donc de fait, je pense que le lecteur français, non japonophone donc, ne peut pas forcément saisir toutes les subtilités culturelles que Rumiko Takahashi a mis dans son manga. Donc de fait, la série a eu un peu moins de succès en France que d'autres séries sur lesquelles on reviendra, j'imagine, un peu plus tard.
Et pourquoi quand même il y a eu ce succès encore maintenant au Japon, en tout cas de ce manga en particulier? Est-ce que justement ça tient vraiment à l'humour? Et là, il faut peut-être insister aussi sur effectivement cette caractéristique humoristique de Takahashi qui fait aussi le succès. D'autant plus si, en fait, divertir, c'est son premier objectif.
C'est son credo, ouais.
Ou alors, est-ce que, vraiment, c'est aussi une manière de raconter une histoire ou des personnages qui semblent un peu universels?
Je pense que l'universalité de ces personnages est...
Au-delà du côté, quand même, extraterrestre, en bikini léopard.
Bien sûr. Je pense que l'universalité de ces histoires, en fait, est parfaitement inconsciente et involontaire, en fait, en réalité. C'est-à-dire que ça fait partie de son talent, en fait. C'est-à-dire que elle raconte des histoires de manière extrêmement personnelle et il s'avère que ces histoires-là finissent par avoir un écho dans le monde entier. C'est quelque chose qu'elle a pas forcément anticipé, peut-être jusqu'à Ranma et demi, où elle avait un peu plus cette conscience de vouloir faire une histoire globale, on va dire. Mais je pense que ce qui a assuré le statut d'œuvre culte, le terme est souvent galvaudé, mais en tout cas, en ce qui concerne Urusei Yatsura, c'est parfaitement valide. C'est avant tout, et on y revient, ces personnages. C'est-à-dire qu'un personnage comme celui de l'AMU, on n'en croise pas dans tous les mangas, aussi bien sur le plan graphique, avec la ligne de Rumiko Takahashi, on n'en a pas encore parlé, mais c'est vrai que son style est un style très simple, très rond, très lisible.
Vous dites rebondi.
Rebondi. Et ce qui est intéressant, c'est que cette non-maestria technique, mais ce serait un petit peu dépréciatif peut-être, mais en tout cas, je pense que ça rend son dessin très accessible.
Mais ça, c'est intéressant quand même de parler de non-maestria, parce que finalement, c'est presque un côté simple. Pliste, ou...
Il y a un côté simple, en fait, je pense. Il y a un côté très, comment dirais-je, très lisible. C'est-à-dire que c'est aussi une très grande qualité qui, au-delà de son dessin, c'est son découpage. Mais c'est vrai que on n'est pas assailli par les informations quand on ouvre une page du manga. Alors c'est vrai que le découpage de Urusei Yatsura est assez particulier parce que c'est des très petites cases. C'était des épisodes de 16 pages à l'origine et elle devait raconter très rapidement son histoire. Donc elle avait pas vraiment la possibilité de se déployer sur des planches un peu moins chargées. Donc voilà, on a.
Je vous montre une planche.
Pour nos auditeurs, oui. Voilà, j'ai une planche sous les yeux avec un découpage effectivement très serré de très petites cases. Mais elle le dit elle-même en interview, ce découpage-là, en fait, lui a été un peu imposé d'une certaine manière. C'est qu'elle a fallu, il lui a fallu résoudre de façon très pragmatique le problème du temps et des deadlines, et il fallait qu'elle aille au bout de ces chapitres qui sont ces épisodes chapitres qui sont tous autoconclusifs, c'est-à-dire qu'en fait à la fin d'un épisode on a la fin de l'intrigue de l'épisode, et de fait il fallait aller vite, donner beaucoup d'informations et multiplier les cases. Donc c'est pour ça que son découpage est très serré comme celui-ci.
Mais est-ce que, enfin, ce succès quand même de sur 34 tomes, vous avez insisté sur le côté sériel, de sérialité en fait de ce manga, il y a un côté presque non approfondi aussi, à la fois dans l'intrigue, mais aussi presque répétitif pour le lecteur. Quel plaisir on trouve au fur et à mesure à des intrigues qui n'en sont pas vraiment, à des traits qui sont pas très approfondis, à des personnages qui peuvent pas non plus être complètement poussés. Finalement, on se demande même si c'est pas juste, en fait, je pose la question volontairement, peut-être un peu méchante, mais est-ce que c'est pas juste du remplissage, en fait, de un peu bétifiant, on avale comme ça des pages de manga?
Pour certains titres, oui. Pour celui-ci, non. Je pense que le lien se crée effectivement sur l'habitude. Et quoi qu'il en soit, au départ, à l'amorce de l'histoire, il y a des personnages très très forts. Alors après, effectivement, les situations, certaines situations se répètent, des situations reviennent. Il y a un effet évidemment formulatique, mais c'est le cas d'à peu près toutes les séries et tous les mangas. Mais ce que je trouve très intéressant avec justement Urusei Yatsura, c'est que malgré la formule, malgré la répétition, malgré la simplicité du style, même si c'est une fausse simplicité en réalité, il y a cette profondeur qui finit par se dégager des personnages. Il y a quelque chose qui est un petit peu abstrait, qui est peut-être un peu psychologique et qui crée un lien extrêmement ténu, extrêmement fort avec le lecteur. Et c'est ce qui le rend parfaitement accro et intéressé et qui lui donne envie chaque semaine de retrouver en fait les aventures des personnages de Rumiko Takahashi.
Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur cette dimension psychologique peut-être de ces personnages-là, de Lamu par exemple?
Je pense qu'elle part d'archétypes, comme très souvent, hein, c'est-à-dire des archétypes d'étudiants, des situations en fait qui sont extrêmement normales, c'est-à-dire que l'une des grandes forces de son œuvre, c'est de partir d'un terreau très réaliste pour y faire éclore quelque chose d'extraordinaire. Donc en fait, elle décrit des situations que tous les lecteurs japonais connaissent, la vie quotidienne,
manger,
la vie scolaire, voilà, les repas, aller à l'école, les rapports parfois un peu conflictuels avec les parents ou avec les professeurs. Et elle va commencer à faire dérailler cette normalité. Là, le déraillement, il arrive avec l'arrivée, le surgissement d'un personnage extraterrestre et extraordinaire, celui de Lamu, et tout le récit va se baser sur ce décalage et sur cet accident. En fait, tout est une série d'accidents chez Rumiko Takahashi. Toutes ces séries sont basées à peu près sur ce type de mécanique-là. Et même si l'accident a l'air comme ça un peu simple, bah il s'avère qu'elle arrive à l'étirer et à le faire durer de manière un peu pertinente dans son récit. Et tout tient à ça, en fait, à ce dérèglement du quotidien, à cette dénormalisation en réalité.
Vous parlez d'accident, Fausto Fazulo, c'est intéressant parce que justement, l'accident, il peut être à la fois dramatique et humoristique. Or, chez Takahashi, il est souvent humoristique. Il y a peu de gravité, de tristesse, en fait, dans son œuvre. En tout cas, dans Lamu, c'est plutôt des situations comiques où là, le divertissement est vraiment
le divertissement est roi. Oui, tout à fait. Oui, bah, c'est un vrai gag manga, hein, comme on dit. C'est-à-dire que c'est un manga humoristique, avant tout basé sur une mécanique comique. Voilà, elle se réfère beaucoup au manzai, qui est effectivement un art de la comédie complètement japonais, avec deux personnages, un clown joyeux, un clown triste. C'est un peu l'idée. Donc elle réfléchit toujours dramatiquement à ce qui fonctionne le mieux et à ce qui est le plus simple et ce qui est le plus lisible, puisque effectivement l'un de ses soucis premiers, c'est d'être lisible et compréhensible par les lecteurs sans les prendre pour des idiots, simplement en faisant en sorte qu'ils arrivent très rapidement à comprendre ce qui se passe déjà dans l'espace d'une case. Donc il y a une vraie gestion topographique qui est très pensée, et aussi comprendre ce qu'il se passe dans l'intrigue. Donc même s'il y a beaucoup de chahuts, même s'il y a beaucoup d'arafus dans toutes ces histoires, on comprend toujours qui est qui, où sont les personnages et où ils vont.
Et pour la dimension comique, est-ce que c'est ça la manière dont on peut définir Takahashi ? Est-ce qu'on peut dire que c'est une mangaka comique ? Ou alors justement, en fait, bah, la grande force de Takahashi, c'est de ne pas être finalement réductible à une forme, à un genre. Alors, on dit qu'elle écrit pour du shonen, donc c'est des mangas pour les jeunes garçons. Elle n'a pas voulu faire justement de mangas pour les jeunes filles. Hormis ça, est-ce qu'elle a voulu vraiment s'inscrire dans un genre du manga, dans un sous-genre du manga en particulier ?
Je pense que non, elle ne se soucie pas trop de ça. Elle se soucie pas des cases et des étiquettes. Son premier souci, c'est vraiment la qualité de ses histoires et comment les lecteurs vont les recevoir. Alors après, est-ce qu'on peut dire que c'est une mangaka comique ? Oui, je pense qu'on peut aussi dire qu'elle est plus que ça. Moi, c'est surtout l'action que je retiens chez Rumiko Takahashi. Alors après, l'action est parfois vecteur d'humour et parfois l'humour est aussi vecteur d'action. Mais pour moi, sa spécialité, c'est vraiment la comédie d'action. Par ailleurs, quand on lui parle de ses influences, elle parle de Jackie Chan, qui donc est quand même l'un des grands noms de la comédie d'action hongkongaise. Et elle y fait souvent référence, aussi bien dans la dimension gaguesque de son cinéma. Faut quand même rappeler que Jackie Chan était très très inspiré par Buster Keaton, et aussi par la dimension purement action et le côté virtuose des chorégraphies martiale.
Elle vous a dit à vous, Takahashi, dans une interview qu'elle vous a accordée.
À moi, je l'ai regardé dans les yeux.
Oui, c'est ça, à vous. La nécessité première pour un auteur de manga est de savoir amuser son lectorat. C'est en tout cas mon objectif absolu, quelle que soit l'histoire que je raconte. Bien sûr, pour plaire, il faut tenir compte un minimum de ce qui se fait actuellement et savoir composer avec les préoccupations contemporaines. Mais cela ne doit jamais prendre le pas sur le sourcil du divertissement. Si j'essaie de me tenir à la page, c'est pour ne jamais perdre de vue le plaisir du lecteur, pas parce que je veux absolument me fondre dans mon époque. Ça, c'est intéressant parce que c'est aussi une manière... Tout à l'heure, j'ai été méchante en disant mais finalement, quel est l'intérêt de lire les mangas de Takahashi si c'est juste pour se nourrir bêtement de pages et de gags de mangas. Et finalement, en fait, la réflexion quand même de Takahashi, c'est vraiment de revaloriser ce divertissement qu'on déteste tant ou en tout cas qu'on aime tant détester en disant qu'il nous abétit. Au contraire, elle le revendique comme tel.
Oui, oui, bien sûr. Et en fait, c'est très compliqué. C'est très compliqué d'être toujours drôle.
Et puis, c'est très compliqué de tenir ça face à peut-être aussi des postures intellectualisantes avec des mangas qui se veulent beaucoup plus réflexifs et
Pour le coup, elle n'est pas du tout dans cette position-là. C'est vraiment quelqu'un qui réfléchit assez peu à son travail. Enfin, en tout cas, à la portée... je vais pas dire philosophique, mais en tout cas peut-être à des connexions un peu souterraines, thématiques que des journalistes ou des commentateurs peuvent faire autour de son travail. Elle, j'ai pas envie de dire qu'elle reste à la surface des choses, mais vraiment sa préoccupation c'est d'accoucher des meilleures histoires et finalement de se soucier de l'accueil, mais pas forcément de la manière dont ces histoires-là vont être décryptées. Ça l'intéresse pas trop. Donc c'est par ailleurs assez intéressant quand on l'interviewe parce que si on arrive avec notre grille de lecture très franco-française voire occidentale, c'est-à-dire
ce
avec
que vous avez fait
pas trop non pas trop je plutôt l'habitude des mangaka, donc je sais qu'il vaut mieux être extrêmement terre à terre et pragmatique. Du moins on sent très vite au bout de 2-3 réponses en fait quelle va être la teneur de l'échange et on voit aussi très rapidement en fait s'ils ont cette capacité de hauteur par rapport à leur œuvre. Et elle, Rumiko Takahashi, c'est vraiment une terrienne, ce qui est assez drôle pour quelqu'un qui arrête pas de raconter des histoires où les personnages sont en l'air, mais c'est vraiment quelqu'un qui est parfaitement pragmatique et qui parle plus volontiers de sa méthode et de l'industrie dans laquelle elle évolue plutôt que ce qu'elle aurait éventuellement envie de raconter. Ce qu'elle a envie de raconter, elle le dit, bah écoutez, lisez mes mangas, amusez-vous, c'est à peu près tout ce que j'ai envie de raconter.
La portion des mimosas, tout le monde est heureux, même si quelquefois le ciel n'est pas toujours bleu. Mais elle est arrivée un jour, et d'un seul coup l'amour est venu enchanter tout ce qui l'habitait. Juliette, je t'aime, Juliette, je t'aime, vraiment c'est bien toi la plus jolie.
Juliette, je t'aime, Juliette, je t'aime. Et je sais que tu es mon amie. Juliette, je t'aime, Juliette, je t'aime. Notre rayon de soleil, c'est toi. Juliette, je t'aime, Juliette, je t'aime. À la pension des Mimosas. Pension des Mimosas, Hugo est amoureux, Stéphane l'est aussi, que va-t-il se passer? Car Juliette les aime tous les deux, ils sont si différents, elle veut qu'ils soient heureux dans le monde des grands. Juliette, je t'aime, Juliette, je t'aime, vraiment c'est bien toi la plus jolie. Juliette, je t'aime, Juliette, je t'aime, et je sais que tu es mon amie. Juliette, je t'aime, Juliette, je t'aime, notre rayon de soleil c'est toi. Juliette, je t'aime, Juliette, je t'aime, à la pension des Mimosas. À la pension des Mimosas, tout le monde est heureux, même si quelquefois le ciel n'est pas toujours bleu. Juliette, je t'aime, Juliette, je t'aime, vraiment c'est bien toi la plus jolie. Juliette, je t'aime, Juliette, je t'aime, et je sais que tu es mon ami. Juliette, je t'aime, Juliette, je t'aime, notre rayon de soleil c'est toi. Juliette, je t'aime, Juliette, je t'aime, à la pension des Mimosas. Juliette, je t'aime, Juliette, je t'aime, notre rayon de soleil c'est toi. Juliette, je t'aime, Juliette, je t'aime, à la pension des Mimosas. Juliette, je t'aime, Juliette, je t'aime, à la pension des Mimosas.
Juliette, est-ce que tu veux que je vienne t'aider?
Non, ce que je veux, c'est que tu restes assis, j'ai presque fini.
Juliette, je peux t'être utile à quelque chose?
Non, Maxime, assieds-toi, c'est presque prêt.
Pourquoi tu ris?
Eh bien... Ça y est, ils ont fini leur devoir?
Marina, oui, elle a tout fini, oui. Mais Léo, c'est encore une autre histoire.
Je suis persuadée que Léo est amoureux de Marina.
Quoi?
C'est classique, très souvent les garçons de l'âge de Léo sont préoccupés. Ils s'intéressent aux filles plus âgées qu'eux.
Il n'y a pas qu'à son âge qu'on aime les filles plus âgées.
Aïe!
Hein? Oh mon Dieu!
Non, c'est vraiment rien, tu sais.
Mais regarde ton doigt, tu saignes.
C'est ta faute, il ne fallait pas dire une chose pareille.
Mais c'est la vérité.
Culture, sans oser le demander. Géraldine Mosna-Savoie.
Puisqu'on a eu quand même le générique de Juliette, je t'aime, interprété par Bernard Minet dans la tête toute cette semaine avec l'équipe de Sans oser le demander, on se disait que c'était quand même bien de faire entendre cette chanson en entier. J'espère que vous êtes contents, Fausto Vazulo, de redécouvrir.
Le sacre de Bernard Minet sur France Culture, je pense que c'est assez historique, effectivement.
Donc, Juliette, je t'aime. Alors ça, c'est pour le titre français. Le manga de Rumiko Takahashi, c'est Maison Ikkoku. C'est publié en 1980. Il y a 10 tomes. C'est diffusé en France, donc en anime, à partir de 1988, dans le fameux Club Dorothée avec donc Bernard Minet. C'est quoi le synopsis de ce manga, Fausto Vazulo?
Alors déjà, on peut très rapidement rappeler et dire et préciser que c'est le manga le plus adulte de l'œuvre de Rumiko Takahashi, puisque c'est un manga qui traite du deuil, le deuil d'une directrice de pension.
Donc Juliette.
Juliette, donc dans la version française, Kyoko dans la version japonaise, autour de laquelle tournent deux hommes. Donc il y a une sorte de triangle amoureux comme ça, et on suit le quotidien de cette pension et puis aussi les relations qu'elle va entretenir et qui sont complexes entre ces deux hommes, deux courtisans qui sont d'extraction différente, et le récit va se construire sur cette, encore une fois, normalité, sauf que là il n'y a pas vraiment d'accident, on peut dire. Il y a juste le poids de la mort, le poids du deuil, le poids de l'époux perdu de la jeune Juliette qui pèse en fait sur tout le récit, sauf que c'est la pèse de manière vraiment très subtile. Et cela donne un aspect très doux amer en fait au récit, c'est-à-dire que on sent que tout ça est empreint d'une sorte de gravité, on y revient. Sauf que cette gravité est teintée de légèreté, ou alors que parfois la légèreté peut devenir grave. Et c'est peut-être la chose la plus intéressante dans Maison Ikkoku. C'est cet aspect vraiment entre chien et loup, entre le drame de la vie et entre le comique de la vie aussi. Et elle arrive à déplacer le curseur comme ça de manière extrêmement fine.
Alors c'est vrai, vous avez insisté tout à l'heure, Fausto Fazulo, sur la dimension très ordinaire, quotidienne, l'attention aux détails de Takahashi.
Là, on y est pleinement avec Maison
Ikkoku. Et presque, parfois, de manière presque un petit peu ennuyeuse, parce qu'il y a une répétition des scènes du quotidien, fatalement, qui se rejoue chaque jour, mais là, qui est sans cesse confrontée, non pas à un accident un petit peu drôlatique, mais à la gravité qui est tout le temps, en fait, un peu en fond, en fait, qui plane sur chaque scène. On a l'impression qu'il y a une sorte de chape de plomb dans ce manga qui contraste quand même avec sa douceur, il faut le dire.
Tout à fait. Mais en même temps, c'est une chape de plomb qui est très rapidement désamorcée par des gags, puisqu'il y a encore des gags.
Mais on l'a un peu entendu d'ailleurs dans
effectivement,
l'extrait.
Effectivement, il y a toute une communauté, tous les pensionnaires justement sont quand même des personnages qui sont très hauts en couleur, extrêmement typés, extrêmement caractérisés, puisque c'est Rumiko Takahashi, c'est quelqu'un qui est très très forte là-dedans, qui arrive à donner une couleur à tous ces protagonistes. Et ce qui est assez intéressant aussi, je pense, c'est que le quotidien intéresse les Japonais. La dépiction du quotidien intéresse les Japonais. C'est, je pense, la première chose qui les a harponnés, en fait, dans l'œuvre de Rumiko Takahashi. Mais je pense aussi que ce quotidien qui peut parfois, en prenant un peu de distance, peut-être nous sembler ennuyeux, a aussi exercé une fascination profonde sur le public français. C'est-à-dire que moi, Maison Ikkoku, ça a été pour moi une des premières fenêtres sur le Japon. Qu'est-ce que c'est que le Japon de tous les jours, la vie d'un étudiant, la vie de cette pension qui ne représente pas le Japon évidemment, mais qui, avec tous ces personnages qui forment une communauté, reflète une certaine partie de la population japonaise. Et c'est vrai que cette fenêtre ouverte sur l'archipel, ça m'a extrêmement stimulé. J'avais l'impression, non pas de voir un documentaire, mais une sorte de témoignage de ce que pouvait être la vie, d'échantillon de ce que pouvait être la vie à 10 000 km d'ici.
La maison, la manière dont les maisons sont agencées, dont on mange.
Tout à fait, exactement. Et je pense que, en tout cas, parmi les premiers animés diffusés en France, Maison Ikkoku a joué effectivement un rôle très important sur la représentation d'un Japon réaliste pour le public français.
Mais c'est vrai, parce que là, on rigole par exemple sur le générique qui nous a marqué ou hanté, si on regardait le club Dorothée, mais c'est effectivement cette chanson, ce générique très français, franco-français par Bernard Minet, tranche complètement effectivement par la représentation en fait qu'on a dans ce dessin.
Oui, complètement. Il y avait ce décalage entre les paroles, le contenu des génériques français et les histoires en elles-mêmes, mais je pense qu'il y avait aucune véritable dérision là-dedans. Je pense que ils sont tombés nez à nez avec une expression qui était littéralement d'un autre monde. Et il a fallu l'adapter rapidement. Et c'est pour ça qu'on a eu des génériques parfois qui étaient un peu...
Et qui étaient vendeurs.
Qui étaient parfois un peu en contrepoint. Pas celui-ci, mais parfois un peu en contrepoint. Et qui étaient vendeurs, oui, bien évidemment. Il y a une dimension commerciale qui est évidente dans tous ces génériques-là. Il ne faut pas l'oublier. Ouais.
On a parlé du quotidien, on a parlé des personnages. Là, on vient d'entendre un extrait du manga, mais adapté en animé. En quoi cette adaptation, elle est fidèle véritablement au manga, en termes même de dialogue, de mise en scène?
Alors après, c'est très compliqué d'estimer la fidélité des dialogues sur la base de la version française, puisque effectivement...
J'insiste sur les dialogues parce que Takahashi elle-même, en fait, parle beaucoup des dialogues, justement, comme symbole de cette relation entre les personnages.
Tout à fait. Et c'est vrai que c'est un peu dur d'arriver à mesurer la fidélité de l'adaptation sur la foi des dialogues français, puisque à l'époque, effectivement, il y avait beaucoup de trahisons qui étaient opérées, parfois pour des raisons d'autocensure, et parfois pour des raisons aussi de compréhension. C'est vrai qu'on pouvait pas, à l'époque, asséner des détails trop nipponocentrés, on va dire, à un public français qui ne connaissait absolument rien de l'Extrême-Orient, puisque tout ça nous arrivait en pleine tête, alors qu'on avait une connaissance très parcellaire de la culture populaire japonaise. Et donc ça a été, comme je disais, une première porte d'entrée. Donc c'est vrai que les adaptations animées des mangas de Rumiko Takahashi sont toutes assez bien, moi je trouve, aussi bien en termes de respect de l'œuvre originale que du graphisme. Et en règle générale, elle fait partie de ces chanceuses de l'industrie à avoir eu effectivement droit à des adaptations de qualité, parfois même des adaptations un peu transcendantes, comme ça a été le cas de Urusei Yatsura, qui a été adapté au cinéma par un réalisateur qui s'appelle Mamoru Oshii, qui avait réalisé Ghost in the Shell, et qui lui en fait est venu aussi greffer sa sensibilité aux matériaux d'origine, et ça a donné un mélange très très singulier.
Et vous avez commencé d'abord par les dessins animés. Par
oui, bien sûr, évidemment.
Donc après, quand vous avez lu les mangas, vous avez eu un choc. Voilà, vous avez été surpris, vous avez retrouvé l'état d'esprit de Maison de Juliette Je t'aime, je veux dire directement.
Maison Ikkoku, ouais, oui, Maison Ikkoku, ouais. Bah, effectivement, on est toujours surpris parce que on se rend compte qu'effectivement, une œuvre qu'on pensait bien connaître, on ne la connaissait peut-être pas dans tous ses détails. Et de toute façon, le format papier est bien plus qualifié pour des développements plus poussé que le format animé. Donc, les adaptations animées sont, de manière générale, quand elles sont réussies, de bons résumés. Là, c'est vrai que poursuivre la découverte ou poursuivre l'exploration plutôt de Maison Ikkoku à travers son format papier nous permet d'en savoir un peu plus sur les personnages et nous permet de mieux cerner peut-être cette dimension psychologique que j'évoquais un peu plus tôt.
Alors vous parlez de la dimension psychologique, on a aussi un peu parlé des dialogues, mais quand même revenons sur les dialogues et sur l'importance que leur attache Takahashi. Elle dit « Les dialogues sans utilité narrative n'ont jamais leur place. La moindre ligne déclamée par un personnage doit être justifiée dans l'histoire. Si ce n'est pas le cas, il faut la dégager purement et simplement, les personnages doivent jouer leur rôle. Je pense qu'il faut proscrire les dialogues qui font aller l'histoire dans la direction où vous l'entendez. Forcer un dialogue juste pour se faciliter la tâche est une erreur. Le rôle doit prendre possession du personnage et le personnage doit prendre la parole lui-même. » Donc là, on a véritablement une mise au-delà même du personnage, du décor, de l'action, de l'inscription dans un quotidien. Le dialogue est véritablement la force de Takahashi. Et pourtant, quand on lit un manga Takahashi, il y a une économie de dialogue. Il y a très peu, en fait, de paroles. Mmh. Alors, on comprend là l'idée qu'elle en dégage pas mal, mais comment elle fait, en fait, pour garder juste parce qu'une quintessence de dialogue qui va tout dire.
Elle pense que ces personnages ne peuvent s'épanouir et s'exprimer qu'à travers l'action, dans un premier temps. Mmh. Et si un dialogue arrive, il vient là pour soutenir une action, et non pas l'inverse. Donc, elle a effectivement théorisée, je ne sais pas, mais en tout cas, elle répète la théorie qui lui a été enseignée par Kazuo Koike, donc cette fameuse école Gekiga Sanjuku, où on apprenait à tous les aspirants mangaka à économiser des descriptions inutiles et à laisser aussi les personnages vivre. Et c'est vrai qu'elle, c'est quelque chose qui lui tient particulièrement à cœur. C'est laisser un certain champ de liberté à ces personnages pour qu'ils puissent d'une certaine manière diriger d'eux-mêmes les histoires. Elle n'a pas envie de les ramener forcément à son intrigue en leur confiant, en leur donnant des dialogues qui vont les enfermer dans une tâche précise. Elle préfère que les personnages se caractérisent d'abord par leurs actions et ensuite que les dialogues arrivent en soutien à cela.
Dans Maison Ikkoku, donc Juliette, par exemple, personnage principal, par exemple, ça se ressent dans les bulles. Il y a des bulles à la fois où elle pense et des bulles à la fois où elle parle. Et on voit bien qu'il y a deux mondes, en fait, qui s'entrechoquent. Et donc, ces dialogues-là, c'est aussi des dialogues de Juliette avec d'autres personnages, mais aussi des dialogues entre elle et elle-même, en fait, qui jouaient. Ça aussi, c'est très bien mis en place par Takahashi.
Oui, elle a su parfaitement jouer avec ce côté dual entre l'intériorité et l'extériorité, entre ce que dit son personnage et ce qu'il pense, entre ce qu'elle ressent et ce qu'elle ne veut pas ressentir. C'est ce qui a permis d'ailleurs à ce personnage-là de devenir quasiment l'un des plus populaires de toutes les créations en fait de Rumiko Takahashi. Mais
justement à cause de cette épaisseur psychologique dont on parlait et on voyait le côté dual entre elles.
Cet ancrage dans un quotidien, cette épaisseur psychologique, le fait que c'est un personnage qui traverse quelque chose de très difficile, le deuil. Tout le monde est sensible au deuil. Il y a un processus d'identification qui s'opère. J'ai quasiment envie de dire de facto. Mmh. Et c'est vrai que cette ambition. Comment dirais-je, expose et qui explose pardon dans le récit de manière très très subtile, c'est quelque chose qu'elle n'a jamais d'ailleurs retrouvé après dans ses mangas suivants. C'est assez intéressant de voir que l'énorme travail qu'elle a pu faire sur Maison Ikkoku, qui était un manga publié dans une revue pour adultes, donc c'est aussi ce qui différenciait le ton de l'œuvre par rapport à Urusei Yatsura et après par rapport à Ranma 1/2. Mais c'est vrai que cette profondeur, elle l'a un peu retrouvée peut-être dans certaines histoires courtes qui étaient justement empreintes de la même gravité, pour utiliser un mot que j'ai déjà beaucoup utilisé. Mais c'est vrai que Maison Ikkoku, Maison Ikkoku est peut-être son meilleur manga parce que justement le plus beau, le plus grave, le plus complexe et peut-être avec le personnage qui est le plus touchant et attachant.
Alors justement, vous parlez de public Fausto Fazulo, effectivement il y a un public d'enfants et puis il y a un public d'adultes. Est-ce que Takashi, elle avait cette idée ou elle a cette idée de viser certains publics en particulier, ou au contraire elle se veut populaire, ou alors elle veut s'adresser à des enfants en devenir d'être adultes, à des adultes qui ont une âme d'enfant, comme on dit un peu bêtement. Est-ce qu'elle a ça en tête?
En fait, quand elle dessine, elle pense au public qui est celui de la revue de prépublication dans laquelle va être...
Donc elle s'adapte un peu quand même.
Donc, en fait, elle est obligée, d'une certaine manière, de suivre des règles et de dessiner, d'écrire des personnages qui correspondent aux attentes du lectorat de la revue. Donc quand on a une revue pour garçons, forcément, on a plutôt tendance à écrire des histoires d'action avec des personnages masculins. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle va s'y conformer, mais elle va aussi glisser un petit peu dans les interstices comme ça du cahier des charges des motifs très personnels, sans pour autant en faire une revendication. Hein. Elle va légèrement pirater le système de l'intérieur, pas suffisamment pour complètement bousculer et renverser ses lecteurs, mais elle arrive tout de même à semer une petite graine, créer quelque chose d'un peu accidentel, on y revient, qui fait que ces shonen, qui sont donc des mangas à destination des garçons, ne sont pas des shonen comme les autres en réalité.
C'est-à-dire, ils les transforment, ils vont leur permettre. Parce que vous disiez que Takashi, elle n'avait pas forcément de réflexivité sur son travail, mais quand même, elle a ça en tête, pas seulement de divertir, mais quand même de transformer, d'avoir un effet sur son lecteur.
Sauf que je pense que c'est pas prémédité en fait. Je pense que quelque chose qui lui vient complètement naturel. Naturellement, pardon. Donc, je pense qu'elle n'est pas dans une optique de « je vais, remodeler le shonen par rapport à mes ambitions, mes obsessions et mes envies ». Elle est plus dans une idée de « quel personnage, en fait, serait peut-être le plus surprenant dans mon histoire ? Comment je vais l'amener à rencontrer un personnage qui a un véritable archétype et peut-être à le faire changer ? Comment je vais organiser cette collision, en fait ?» Et ça, c'est quelque chose d'assez unique dans le paysage du manga.
Ah bah justement, un personnage qui évolue beaucoup et qui évolue même tout le temps, c'est Ranma 1/2.
Tout a commencé au début du mois dernier. Nous sommes partis pour la Chine afin de nous perfectionner encore plus. J'avais entendu parler de différents endroits où l'entraînement était particulièrement dur. Mais je pris la décision d'aller dans la province où s'élèvent les montagnes Bayankara, parce que c'était là que se trouvait le site légendaire de Juzen.
Comme vous le voyez, il y a quelques centaines de sources. À chacune d'entre elles est associée une histoire dramatiquement triste.
Ranma, j'y vais, tu me suis ?
Attendez, je ne vous ai pas tout raconté. Vous ne devriez pas commencer sans écouter toutes mes explications.
Oh non.
J'étais...
Papa.
Qu'est-ce que c'est que ça?
Eh bien, cette source s'appelle la source du panda noyé. La légende veut qu'un panda s'y soit noyé il y a environ 200 ans. Et depuis, chaque fois que quelqu'un y tombe, il se transforme en panda, exactement comme votre père. Oh non, le pauvre! Il est tombé dans la source de la jeune fille. Toujours d'après la légende, il y a quelques centaines d'années, une jeune fille se serait baignée dans cette source et s'y serait noyée. Chaque fois qu'un homme tombe dans ses eaux froides, il se transforme en jeune fille. C'est la malédiction.
Ranma 1/2, moitié lumière,
Depuis longtemps, j'avais envie de dessiner un manga comme Ranma, dont l'histoire se déroulerait dans une école avec des scènes d'action. J'aimais beaucoup le maître chinois de Jackie Chan et je voulais dessiner quelque chose comme ça. Je voulais dessiner une sorte de kung-fu comique. En ce qui concerne le changement de genre du personnage, en combinant les deux, ça élargit les possibilités d'histoire et permet de dessiner différents costumes. S'il change de genre, même s'il garde les mêmes vêtements, comme son corps change, sa façon de les porter change aussi.
Ranma 1,5, donc le manga de Rumiko Takahashi qu'on vient d'entendre à propos donc de ce personnage, Ranma Saotome, qui donc est tombé, on l'a entendu dans l'extrait.
L'histoire est résumée dans l'extrait.
En fait. Ouais, du dessin quasiment animé, parce qu'en fait c'est le père qui raconte donc à ses amis chez qui il arrive, ce qui leur est arrivé. Ils sont tombés effectivement dans une fontaine qui les a transformés. Le père se transforme en panda au contact de l'eau et son fils se transforme en fille au contact de l'eau froide, et l'eau chaude le fait redevenir un garçon, c'est ça. Je crois que je ne me trompe pas. Et pourtant, Takahashi a vu ça comme un ressort comique, ou comme en tout cas le moyen de déployer des possibles narratifs et comiques incroyables. Il n'y a pas du tout une réflexion sur le genre chez elle. Ça, c'est intéressant. C'est pas du tout... Il n'y a pas de dimension politique. Voilà, chez Takahashi.
Non, non, pas du tout. Puis en plus, dans l'entretien qu'on a entendu, elle évoque la posture du personnage qui change en fait selon qu'il soit garçon ou fille, avec cette idée de tenue en fait, de tenue vestimentaire qui correspond finalement aux deux sexes. Donc encore une fois, elle a une vision qui est extrêmement pragmatique en fait de son récit, avec absolument aucune dimension sous-textuelle. Ce qui rend, je trouve, d'autant plus fort en fait son travail, c'est-à-dire que il n'y a rien de pire en fait qu'une œuvre à message, puisqu'elle est forcément consciente et elle est forcément attendue. Or, ce qui est intéressant dans le travail est daté de fait, puisqu'elle s'ancre dans une époque, dans le message d'une époque, etc. Or, le travail de Rumiko Takahashi est tellement spontané que même s'il y a des choses aujourd'hui qui peuvent paraître un peu surannées ou dépassées, ça participe d'une telle sincérité que son écho est encore hyper prégnant aujourd'hui. C'est-à-dire que même si elle ne réfléchissait absolument pas à ces questions de genre à l'époque de Ranma 1,5, quand on le lit aujourd'hui, non pas que le manga soit particulièrement actuel, mais on a vraiment la sensation de lire quelque chose de différent, en fait, en réalité. De différent, qui sort de l'ordinaire, avec une dimension comique qui n'est jamais une dimension moqueuse, puisqu'elle se moque jamais de ses personnages, en fait. Elle n'en rit pas, elle les prend très très au sérieux, même s'il leur arrive des choses complètement insensées. Et cette croyance absolue et fondamentale en ces personnages fait que une œuvre comme Ranma 1,5 est aujourd'hui considérée comme un classique en réalité.
Mais c'est vrai que de lire Ranma 1,5, d'avoir ce personnage de Ranma qui change fille ou garçon, mais effectivement c'est juste un changement qui est pas seulement comique en fait. Hein. D'ailleurs, ça devient toujours un peu gaguesque, mais en fait lui-même Ranma ne sait pas où se situer, mais c'est jamais problématisé. Ça devient jamais un problème. Il dort donc chez un ami de son père qui a trois filles, donc il est promis à une des.
Tout à fait. C'est une sorte de mariage arrangé.
Voilà,
c'est
un mariage arrangé. Les sœurs sont un peu pestes entre elles. La fille à laquelle il est promise le déteste.
Elle déteste tous les garçons.
Tous les garçons, mais en même temps, les sœurs lui disent tu peux bien l'aimer quand même, parce qu'en fait, finalement, Ranma, c'est quand même à moitié une fille. Et tout ça, en fait, est posé de manière à la fois simple, non consciente, conscientisée, comme vous le disiez, avec à chaque fois, non pas seulement des ressorts comiques, mais juste, en fait, une sorte, effectivement, de comment le dire à part dire simplicité. En gros, qu'est-ce que ça change d'être un jour une fille et à un autre moment un garçon. C'est aussi simple que ça.
C'est vrai. En fait, je ne sais pas quoi ajouter, parce que c'est exactement ça, en fait, en réalité. Et ce qui pourrait passer pour une œuvre parfaitement binaire, en fait, en réalité, ne l'est pas du tout. Alors que pourtant, son titre implique, sous-entend, une binarité.
Ouais.
Or, son manga ne l'est absolument pas. Il est constamment justement sur le fil et il arrive à garder cette subtilité dans un registre qui est pourtant hyper cadenassé, hyper verrouillé, qui est celui du manga d'action pour garçons. Donc en plus, elle arrive pas forcément à déjouer les codes, mais peut-être légèrement à les faire dévier en fait. Mmh. Et ça, je pense que les lecteurs, ils ont vraiment remarqué ça, et c'est par ailleurs une des raisons pour lesquelles elle a pu gagner un lectorat plus féminin sur cette série.
Et puis, cette absence de thème ou de théorisation ou de réflexivité politique, sociétale, sociale et tout, lui permet aussi de durer dans le temps. Est-ce que vous pourriez dire, en fait, qu'on peut lire du Takahashi à n'importe quel moment de sa vie, à n'importe quel moment de l'époque, ou est-ce qu'elle est un peu datée quand même sur certaines choses ?
Je pense qu'on peut et qu'on doit lire du Rumiko Takahashi à n'importe quel moment de sa vie.
Alors pourquoi on doit lire du Takahashi ?
On doit lire simplement pour se rendre compte en fait que le manga est parfois plus qu'un simple divertissement et que même si ces mangas sont pensés pour être de simples divertissements, on arrive à cerner et à comprendre son talent parce qu'on se rend compte que derrière ce divertissement-là, il y a une véritable réflexion narrative, une véritable capacité d'écriture profonde des personnages et que sous la couche du pop, en fait, il y a quelque chose de bien plus sincère en fait qui s'écoule.
Elle a eu quand même, donc vous l'avez dit, le Grand Prix d'Angoulême en 2019. Elle a eu deux fois le prix Shokugan du Shonen en 1980 et 2001. Là, on a parlé quand même d'œuvres qui datent plutôt des années 80. Depuis, qu'est-ce qu'elle fait, Takahashi, Rumiko Takahashi ?
Elle s'est jamais arrêtée de travailler. Donc ça, c'est déjà très important, puisque parfois, il y a des auteurs qui, effectivement, accouchent d'un hit absolu, qui a un retentissement planétaire et qui... disparaissent ou qui en tout cas lèvent le pied. Ça n'a jamais été son cas. C'est quelqu'un qui a toujours été dans le travail, dans l'industrie, avec une conscience aiguë de ce qu'elle doit faire, de ce qu'elle doit livrer, en respectant les dates butoirs, puisque c'est l'un des problèmes fondamentaux en fait des mangaka, c'est respecter les dates de livraison de leurs planches. Et elle a toujours travaillé. Alors après, il est vrai
qu'elle a moins de succès.
Elle a forcément moins de succès puisque il y a des œuvres colossales qui ont émergé entre les années 90 et 2000, que le paysage du manga a changé, parfois dans le fond et aussi dans la forme.
Est-ce qu'elle a un peu ringard justement dans la forme ou à défaut de l'être en fait dans le propos quoi ?
Je dirais pas qu'elle est ringarde, je dirais qu'elle est un petit peu datée parfois et qu'effectivement ce qui faisait peut-être parfois la saveur en fait dans les années 80 et des années 90 de son trait aujourd'hui peut apparaître un petit peu désuet. C'est vrai que vu que ce n'est pas une grande technicienne, vu qu'elle n'est pas dans une espèce de démonstration ostentatoire de ce qu'elle est capable de faire, on peut aujourd'hui effectivement en feuilletant ses mangas actuels trouver que ça manque un petit peu de panache et que ça n'a pas forcément le charme aussi de ce qu'elle pouvait faire avant. Ça, c'est, je trouve, un argument qui est parfaitement recevable. Et par ailleurs, c'est assez vrai, c'est une autrice qui est moins intéressante aujourd'hui qu'elle ne pouvait l'être il y a 15 ans.
Mais il faut quand même la lire. Par quoi on commence ?
Moi, je dirais Maison Ikkoku, en fait, en réalité.
Merci beaucoup, Fausto Fazulo. Alors, de vous, avant, on peut aussi lire les deux articles que vous signez donc dans le Télérama hors-série Planète Manga. Et on peut lire aussi donc les œuvres de Rumiko Takahashi aux éditions Glénat. Vous l'avez dit, Juliette, Je t'aime, Ranma 1,5, Mao, Mermaid Saga. Merci beaucoup, Fausto Fazulo.
Merci.
Et merci à l'équipe de Sans Oser le Demander, Anaïs Isbert, Marie-Lise de Saint-Salvi, Gwendoline Troiano, Cyril Marchand, Lord à l'Est, réalisation Nicolas Berger, prise de son Jordan Fuentes. On se retrouve sur les réseaux Twitter, Instagram, sur le site de France Culture à la page Sans Oser le Demander ou encore sur l'application Radio France.